la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Bien, nous allons une nouvelle fois au CACN, le centre. J'ai un creux.
Centre d'art contemporain de Nîmes.
Voilà, donc c'est Guillaume Monceau qui est directeur depuis le départ de Bertrand Rioux, donc depuis...
Depuis mai dernier.
Mai dernier, mais vous étiez avant déjà dans, oui, dans le CACN.
Oui, je travaillais effectivement en tant que directeur adjoint, mais sur des missions en freelance. Donc j'ai travaillé notamment sur l'exposition de, associée à la Triennale.
Alors, le CACN, donc le Centre d'Art Contemporain de Nîmes, donc la station de tramway Trait d'Union, donc c'est très facile d'y aller. Et pour vous, c'était évident de reprendre ce poste, c'est-à-dire c'était une continuité, il y avait d'autres possibilités ou c'était écrit?
C'est une bonne question, mais... C'est une période de ma vie où je passais des entretiens pour diriger des centres d'art pendant près de 2 ans. Après avoir travaillé près d'une dizaine d'années dans d'autres centres d'art, dans des fonds régionaux d'art contemporain, j'ai travaillé aussi beaucoup en indépendant en tant que commissaire d'exposition en France, à l'étranger. Et du coup, voilà, c'est une période où je cherchais à installer ce travail de programmation artistique dans un lieu plus pérenne. Mmh. Voilà. Et puis, la proposition m'a été faite par Bertrand Rioux de prendre sa suite, étant donné que c'est un lieu qu'il a monté, qu'il a réussi à amener assez loin, mais qui avait aussi besoin encore un peu plus de structuration. Et du coup, c'est une proposition que j'ai acceptée avec plaisir. Et voilà, je découvre.
Et vous ne regrettez pas?
Je ne regrette absolument pas, au contraire.
Et puis, c'est un moment, il faut le dire, vous êtes jeune papa, donc ça correspondait aussi peut-être à une époque de la vie, peut-être se poser un peu plus.
Ça tombait bien. Oui, oui, c'est plus facile que le travail indépendant. Enfin, c'est plus facile. Pas plus facile, mais c'est plus stable.
Voilà. Donc, bravo Guillaume pour cette nomination donc à la tête du CACN. Et nous allons parler un peu du fonctionnement, parce que nos deux auditeurs le connaissent bien. Je crois que j'ai fait une dizaine d'émissions avec Bertrand Rioux, puisque c'était d'abord rue... Comment c'était avant?
Vers Montcalm, mais je ne me rappelle plus le nom de la rue.
Et puis, j'ai vu le transfert donc, là-bas, et puis de nombreuses expositions, la Triennale. Et là, on parlera de Rouler Laver, l'exposition de Rongi, qui malheureusement n'a pas pu venir. Mais pour une bonne raison, c'est qu'il est à la Villette. Hein.
Alors, il est en résidence à la Cité internationale des arts à Paris, qui est très très chouette pour les artistes.
Donc, c'est une forme aussi de consécration. Il est très content. Oui. C'est un vrai plaisir d'avoir une visite guidée par lui. On sent son enthousiasme. Mais avant de parler de ça, on va parler donc du fonctionnement du CACN. Alors, c'est dans un quartier sensible. Et le but, c'est de donner accès à l'art contemporain au maximum de personnes.
Exactement, ce qui est une mission qui se rapproche beaucoup de la plupart des autres centres d'art en France. La spécificité, c'est que comme c'est un quartier qui est dit prioritaire, c'est un endroit dans lequel il y a un maillage associatif assez dense, que le CACN, qui est aussi une association, fait partie de ce tissu-là, et que par conséquent, on a des publics qui se croisent entre ces différentes associations et une envie et un besoin de croiser ce que font ces différentes associations. Et donc, on travaille beaucoup en partenariat avec les associations du quartier pour amener des publics de ces différents endroits.
Qui spontanément ne viendraient peut-être pas au CACN en disant « l'art contemporain, c'est pas pour moi. L'art, c'est pas pour moi. L'art contemporain, c'est pas pour moi. » C'est pas un musée, hein, c'est un centre d'art. Donc, ça tourne, ça... Et puis, vous employez beaucoup de services civiques. On vous envie parce que vous avez toujours 3-4 services civiques.
C'est vrai, oui, oui, oui.
Alors, et ils font quoi?
Les services civiques, ce sont des personnes qui ont moins de 25 ans, qui sont souvent soit en études, soit en poste d'études, et qui sont là pour 8 mois pour travailler autour de la médiation notamment, mais qui découvrent aussi, voilà, qui font les visites, qui accueillent, qui travaillent sur des ateliers pour les publics, mais qui découvrent aussi d'autres aspects du centre d'art, comme les montages, les démontages d'expositions, et ce que je mentionnais tout à l'heure, le partenariat avec les associations du quartier, mais aussi d'autres structures en ville, ça fait partie des choses sur lesquelles cette partie de l'équipe est menée à travailler.
Alors, je crois que c'est important justement d'insister sur ces ateliers. Il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de visites guidées, et c'est une des missions du CACN.
Tout à fait. Alors, le fait de... La distance qu'il peut parfois y avoir avec l'art contemporain, elle n'est pas nécessairement spécifique à ce quartier. Je pense que tous mes collègues de centre d'art travaillent avec les mêmes a priori, effectivement, de la part du public. Néanmoins, on a du coup l'occasion de travailler sur pas mal d'ateliers. Et ça demande un travail spécifique d'aller s'adresser à des publics. Ce qu'on a fait depuis mon arrivée, c'est qu'on a ouvert une salle de médiation qui s'appelle la salle Petit Format. Et qu'on utilise des outils de communication un peu plus précis. On a notamment un livret dans lequel on a des dates d'ateliers qui se passent dans la salle Petit Format. Et c'est donc des choses qu'on communique à la fois dans les écoles, dans les associations. Et c'est des façons de faire venir du monde. Et on essaie que ces ateliers soient menés régulièrement. Ils le sont deux mercredis par mois et le dernier samedi du mois, pour fidéliser les publics de ces ateliers.
Oui.
Et quelque chose qui est important aussi pour nous, c'est le croisement avec du public plus jeune qui pourrait venir sur ces ateliers et leurs parents qui pourraient venir visiter les expositions. C'est aussi pour ça qu'on ouvre le samedi, où potentiellement on a plus de parents qui peuvent accompagner leurs enfants, les ados. Voilà.
Donc c'est un beau projet, et puis pour valoriser aussi un quartier, valoriser l'art, valoriser l'échange. Et c'est vrai que c'est très dynamique. C'était tout de même un pari difficile de mettre un centre d'art dans ce quartier. Mais ça donne de la vitalité. Et en espérant qu'après les bibliothèques réouvrent, qu'il y ait autre chose. Mais on ne va pas aborder ce sujet. On va plutôt aborder donc l'exposition de Wonji, Rouler, Laver. Mais avant, on a l'habitude de mettre des musiques. Wonji n'a pas eu le temps de nous dire. Vous n'avez pas d'idée. Donc, on a essayé de se mettre d'accord. Et vous avez une chanson en tête qui est la chanson du film de Podane. Et comme moi, je voulais Delphine Seyrig et vous vouliez Catherine Deneuve, on mettra les deux.
Parfait.
Comme ça, on ne se disputera pas. Et on va commencer peut-être par Catherine Deneuve dans Le Cake d'amour. La Saint-Valentin n'est pas loin. Ça, il n'y a pas longtemps. Donc, allez, Le Cake d'amour.
Thank you.
l'exposition de Wonji, alors, parlez-nous de Wonji, son parcours. Alors, il y a un petit fascicule où on peut lire, mais c'est beaucoup plus intéressant que vous nous disiez un peu les caractéristiques de Wonji. Il en parle très, très bien. Très bavard, Wonji.
Wonji, oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'histoires à raconter. Et c'est vrai que vous l'avez vu lors de la visite. Chaque petit détail de l'exposition peut emmener dans une nouvelle histoire. C'était un aspect aussi qui m'intéressait pas mal dans son travail. Wonji...
Et sud-coréen.
Et sud-coréen, exactement. Ça fait une dizaine d'années qu'il est en France. Il a d'abord vécu à Paris et puis il a fait les Beaux-Arts de Nîmes. Mmh. Je pense que ça fait 2 ou 3 ans qu'il est diplômé. Et j'ai eu la chance de voir ses 2 dernières expositions qui étaient à Nîmes. Enfin, non, il fait des expositions ailleurs, mais en tout cas, les 2 dernières expositions qu'il a fait à Nîmes, à la fois au on-off pendant la triennale de Nîmes, vers la Placette, et à la fois dans un atelier qu'il a eu à disposition pendant près de 2 ans à Pissevin, vraiment pas loin du centre d'art. Donc, c'était deux projets assez, assez différents et assez fascinants. Celui où on-off parlait beaucoup de la question de la figure de l'étranger, étant donné que la Placette était historiquement une limite du bord de la ville de Nîmes et que les étrangers arrivaient.
Gitan, voilà.
Voilà. et donc voilà, c'est des questions qui le travaillent beaucoup.
Et lui-même, quand il est arrivé, bon, c'était pas évident. Je me souviens d'une remarque qui m'a vraiment marquée lors de la visite, c'est qu'on sent qu'il a dormi au sol, il a dormi dans la rue, il voit les choses au niveau du sol.
C'est effectivement une partie importante de son travail. Il a tendance à s'impliquer beaucoup dans les contextes dans lesquels il travaille. Donc effectivement... il avait fait un projet, notamment au vaisseau 3008, dans lequel il avait campé et dormi dans les caves de l'ancien Hôtel Dieu qui est détruit aujourd'hui. Et c'est pareil, quand il était à Paris, il avait aussi dormi dans la rue avec sa tante. Quelqu'un qui s'investit beaucoup dans les contextes dans lesquels il travaille. Et justement, ça m'amène au projet qu'il avait fait à Pissevin, donc l'atelier qu'il a encore pour le moment. Un peu avant la triennale, mais ça s'est étendu dans le temps, il avait collecté des plantes vernaculaires qu'il était allé chercher dans le quartier de Pissevin. Il les a ramenées dans un ancien funérarium. Et il a créé un jardin, donc avec de la terre, du gravat, du guano. Il avait des horloges qui permettaient de régler un arrosage quotidien. Et il accueillait des pigeons qui le retrouvaient dans le quartier, donc qui parfois étaient blessés, et il les soignait. Donc l'exposition s'appelait Hostis, donc il y avait cette référence au lieu d'accueil, d'hospitalité, de soins.
On reverra les pigeons, c'est important. Hein.
C'est important. Mais je crois que c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment touché. C'était l'intérêt pour le contexte. C'était un artiste qui connaissait bien le quartier de Pissevin. Par ailleurs, il est impliqué dans des associations militantes, à la fois sur les questions d'accueil, justement. Il travaille avec Réseau Éducation Sans Frontières. Il participe aussi à un réseau d'hébergeurs solidaires. Donc, la question de l'accueil des gens qui arrivent en France, qui arrivent à Nîmes, quelque chose d'assez important pour lui.
Bah, c'est peut-être lié aussi à son expérience personnelle. Vous savez pourquoi il a quitté la Corée du Sud ? Il y a fait son service militaire, donc il était vraiment dans la société coréenne. C'était pour des raisons politiques, c'était pour simplement... Il vaudrait mieux qu'il vienne nous en parler.
Oui, ça, j'aime qu'on n'en a jamais parlé, oui, mais non, on n'a pas forcément parlé ensemble.
Mais bon, ces éléments d'accueil sont excessivement importants. Et puis moi, je l'avais rencontré aussi au Spot lors de la triennale. Il était très présent lors de la triennale au Spot et il faisait beaucoup d'animations. Et c'est quelqu'un vraiment de très, très volubile, mais très chaleureux. Hein. On sent que ça lui tient à cœur, donc très engagé. Et alors, rouler, laver, eh bien, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Les services civiques ont beaucoup participé. Vous parliez des gravats, vous parliez de tout ça. Il faut aller chercher.
Eh oui.
C'est un travail souvent très manuel, très physique. Hein, et on sent vraiment qu'il s'investit. Et vos jeunes services civiques ont été contents. Ils ont vu ce que c'est qu'un travail d'artiste.
Tout à fait. C'était aussi l'idée de travailler avec Wanji pour... C'est la première exposition que je signe là-bas. Donc l'idée de travailler avec lui, c'était à la fois cet intérêt pour le contexte et cette compréhension du contexte de ce centre d'art dans ce quartier-là. Également, c'était l'opportunité, puisqu'il vit à Nîmes, de travailler avec quelqu'un sur le temps long. Il y a des contraintes parfois dans les centres d'art quand on travaille avec des artistes qui ne vivent pas sur place et qu'on peut les faire venir dans la limite du budget dont on dispose, puisque il faut payer les artistes, il faut les faire venir, il faut payer un budget de production, il faut les héberger. Voilà, ça reste une petite structure, le centre d'art. Et du coup, l'idée, c'était peut-être de commencer sur un format un peu plus
ancré
et avec un peu le luxe du temps. Et du coup, Wanji a pu venir régulièrement et effectivement rencontrer l'équipe. On a tous et toutes mis la main à la pâte, effectivement. Et bon, le centre d'art était un peu en chantier pendant tout ce temps. Et à la fois, c'était un temps qui était très important pour monter l'exposition, mais aussi pour avoir plein de discussions formelles et informelles pendant tout ce temps-là. Ça, c'est des choses essentielles aussi pour pouvoir présenter les expositions après.
Alors, je rappelle qu'elle s'appelle Rouler Laver, donc on parle beaucoup des pierres, on va en décrire quelques éléments. On avait parlé aussi du CACN, parce qu'il y avait, lors du Festival Flamenco, une pièce réservée à Marjorie Nastro pour le flamenco. Donc, c'était bien que ça soit un petit peu en même temps. Il y avait une population différente qui venait et qui découvrait ce qu'elle n'aurait peut-être pas vu spontanément. Alors, on va écouter notre deuxième chanson de Podane. Là, c'est Delphine Seyrig, La Fée Lila. J'adore la voix de Delphine Seyrig. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'exposition, mais tant pis.
La situation attention, mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants, et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements, je vais vous éclairer brillamment, je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manié, gancé.
Alors sur Radio Alliance Plus, Guilhem Monceau, donc directeur du CACN, continue de nous parler donc de Wanji, de son exposition « Rouler, laver ». Beaucoup de blanc, beaucoup de pierre, beaucoup de choses minimalistes, beaucoup de pigeons. Hein, dès l'entrée, les questions fusaient. Pourquoi un sarcophage de pigeons? Pourquoi un columbarium? Pourquoi enterrer les pigeons? Enfin, l'exposition ne se réduit pas à cela. Alors, comment vous expliquez un peu la conception de son travail? Il y a plusieurs salles, il y a des salles différentes. Peut-être qu'on peut commencer par les columbariums, par les pigeons.
Oui, peut-être en introduction par rapport à cette exposition, l'idée, en commençant à discuter avec Wanji, était de présenter quelques projets récents, de voir aussi comment est-ce qu'ils pouvaient être réactualisés par rapport au centre d'art. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plusieurs projets que certains avaient déjà été montrés ailleurs. C'était comme une sorte de mini-rétrospective, même s'il a été diplômé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est pour ça qu'il y a des travaux un peu emblématiques qu'il a pu déjà montrer, comme le Columbarium, effectivement.
Mais avec des nouveautés.
Avec des nouveautés, effectivement. C'est quelqu'un qui expérimente beaucoup, Wang Yi. Et du coup, les Columbariums, pour prendre cette série en exemple, vous avez le Columbarium 2, le Columbarium 3, le 4. Oui, voilà, il y a le 5 et le 6, si je me trompe peut-être, mais en tout cas, voilà, il y en a qui ont été produits spécialement pour l'exposition. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui. Cette question de réactualiser, elle est importante pour lui. Et c'est vrai qu'il va lui arriver de revenir sur une œuvre qu'il a faite, de retester des choses différentes.
Et il expliquait que les pigeons dans la culture coréenne sont très importants. Hein. Il y a ce lien peut-être civilisationnel, hein, culturel. Peut-être qu'un occidental n'aurait pas eu cet intérêt pour le pigeon, qui est plutôt considéré comme un nuisible, alors que Wang Yi le considère comme autre chose.
C'est une question.
Il lui rend hommage.
Oui, c'est une question centrale dans cette exposition. Je pense que c'est une question importante pour le travail de Wang Yi, qui a d'ailleurs écrit son mémoire de fin d'école sur la colombophobie, donc contrairement à la colombophilie. C'est la peur ou la haine des pigeons. Et effectivement, il a un travail de... un travail comme un travail de soin, mais... apporté à des pigeons qui sont décédés, qui va aller enterrer... mettre dans des boîtes. Et c'est une forme d'intention qui est effectivement peu commune, puisqu'on a tendance à considérer que les pigeons sont nuisibles, mais...
Là, il y a un respect. Est-ce que dans le pigeon, en fait, il ne voit pas autre chose? Il ne voit pas des êtres humains? Il voit pas... Il fait un parallèle avec toutes ces personnes exilées qui sont dans la rue, qu'on ne voit pas, qu'on... Il y a peut-être un parallèle.
Je pense que ce qui est très important, c'est qu'il voit dans chaque pigeon une singularité. En fait, c'est ça. Au lieu de considérer l'ensemble du groupe pigeon, chaque pigeon est important pour lui. En fait, dans un de ses premiers columbariums, chaque pigeon est enfermé dans une boîte et ils sont montrés en groupe. Mais dans ce groupe, chaque pigeon a sa propre boîte, qui est une boîte qui est d'ailleurs... Alors, il a ses références à lui, elles ne sont pas montrées dans l'installation, mais il sait d'où vient chaque pigeon, quand est-ce qu'il a été ramassé. Voilà, il y a quand même un travail important, à nouveau, d'attention à ces pigeons-là. Mais effectivement...
Il se momifie tout seul.
Oui.
Et puis après, il les encastre dans de la résine.
Ça, c'est un nouveau développement. C'est-à-dire qu'avant, il les enterrait dans des boîtes en plastique, un peu standard. Et il a commencé à faire des espèces de sarcophages qui sont toujours transparents parce qu'ils sont en résine. Mais cette fois-ci, il a fait un moulage à partir d'un piège à pigeons qu'il a trouvé à Decathlon, qui est une forme de pigeon en train de manger, qui est un leurre pour la chasse aux pigeons. Et donc, il a recréé à partir d'un moulage cette forme-là qu'il a ouvert pour pouvoir insérer le corps du pigeon à l'intérieur. Et ça devient donc, c'est toujours un tombeau individuel, mais qui devient encore plus proche de la forme du pigeon, donc qui est encore plus qui définit encore plus ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et comme il le dit, donc cet intérêt pour le sarcophage, c'est le fait que le vrai corps soit enterré à l'intérieur de l'image de la représentation d'un corps. Qui est ce que sont les sarcophages égyptiens, par exemple, qui sont en forme de
corps. D'ailleurs, celui qui est accroché au mur quand on entre, moi, je l'avais vu de profil en arrivant, et je pensais que c'était, c'est drôle ce que vous dites, je pensais que c'était les deux couronnes, en fait, d'Égypte. Parce que sur le côté, vous voyez, on a toutes nos références, notre imaginaire. Et puis parfois, on vous dit que c'est individuel, mais j'avais beaucoup été attirée par ce qu'il appelle la fleur, je ne savais pas, la marguerite, avec ses six pigeons qui sont enterrés la tête vers l'intérieur et ça fait comme une fleur. Donc c'est une démarche très intéressante, mais on ne va pas parler que des pigeons parce qu'il y a aussi les chaussures de ces jeunes africains qui ont été longtemps dans les anciens hammams et puis qui ont dû partir. Et c'est très fort. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une similitude hein, entre les sarcophages des pigeons et puis les chaussures abandonnées de ces jeunes qu'il a mis dans... C'est de la peinture, de la résine, de la peinture.
C'est un sorte de crépi projeté qui a été recouvert de blanc.
Et c'est très parlant, hein, je veux dire, on est pris aux tripes, hein, on peut dire, hein, vraiment.
Oh, oui, bah c'est la dernière installation de l'exposition. Elle est assez importante parce qu'elle correspond à une actualité au moment du montage de l'exposition. C'est-à-dire qu'il y a un squat à Val-de-Gour, donc le quartier d'à côté Pissevin, qui a été fermé pendant les vacances d'hiver ou un peu avant. Et donc, c'était effectivement un ancien hammam qui était squatté depuis 2 ans.
Oui, et on voit la céramique, on voit les carrelages. Il y a vraiment tout un travail aussi photographique.
Et donc, lui connaissait certaines personnes qui habitaient ce squat et qui, 2 jours avant la fermeture, lui ont fait visiter. Et donc, il y avait beaucoup de chaussures qui avaient été laissées là par des personnes qui y sont passées et qui ont dû laisser derrière eux des affaires avant de se déplacer encore quelque part ailleurs. Donc voilà, il a choisi de collecter ses chaussures de la même manière qu'il collecte des pierres, qu'il collecte des pigeons. Et ça a été quand même une question importante de savoir si et comment on pouvait présenter ces chaussures parce que voilà, il s'agit d'une situation qui est quand même assez difficile, qui est voilà, une situation dangereuse et extrêmement précaire pour ces personnes qui vivent là-bas et qui sont à la rue du jour au lendemain. Lui est assez au courant de cette situation, étant donné, comme je vous disais, qu'il travaille avec des hébergeurs solidaires. Donc voilà, ça l'a beaucoup occupé, en plus du travail d'installation pendant le mois de décembre. Et puis voilà, et puis au final, il a choisi quand même de montrer ses chaussures. Elles sont recouvertes de crépi et de peinture, comme si ça reflétait la difficulté aussi dans un lieu d'art de dépasser un niveau symbolique pour parler de sujets comme ça. Et à la fois, c'était très important quand même d'en parler parce qu'il y a une proximité, parce qu'il y a une actualité et parce que c'est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur.
Alors, je me rends compte que notre temps est presque fini. On n'a presque pas parlé des pierres. On les a juste abordées. Alors, rouler, laver, il y a plusieurs salles consacrées à ces pierres. C'est une très belle réflexion quasiment philosophique hein, de ces pierres qui roulent, qui se lavent, qui changent. Et j'invite vraiment nos auditeurs à aller voir cette exposition parce que je trouve que c'est une belle façon d'entrer dans l'art contemporain. Parce qu'elle est assez, vous parliez du symbolique ou du réaliste, je trouve qu'elle permet, même si on n'a pas de connaissances, on réagit. Et c'est ça que vous voulez tout de même faire ressentir. L'exposition dure jusqu'au 19 avril, donc il y a le temps. On peut demander des visites guidées, on peut, voilà. Donc, à la station du tramway Trait d'Union, le T2, et c'est ouvert tout le temps.
C'est ouvert du mardi au samedi, de 11h à 18h. C'est également possible de réserver pour des ateliers de mercredi par mois et les derniers samedis. J'insiste, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on commence et qui est important.
Mais merci à vous, Guillaume. Et puis, bonne installation maintenant. Ça y est, vous êtes bien, bien dans vos chaussures, j'allais dire.
Exact.
Et bravo à vous et à très bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt.